Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel avanzado. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Elija la mejor opción. A, B o C. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas.
Vous écoutez France Culture.
Bonjour à vous, Sabine Aurory de la Croix. Hervé. Pour votre coup de cœur littéraire cette semaine, c'est Jane Austen avec un inédit.
Non, pas un inédit, mais un inconnu, disons, qui reparaît. En fait, au départ, je m'apprêtais à vous parler du nouveau roman de Stephen King qui s'appelle Dr. Sleep, qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. Un roman tout à fait génial qui est en fait la suite du célèbre Shining, un roman qui devrait plaire à Jean-Christophe Lagarde, puisque c'est l'histoire de deux personnes au pouvoir surnaturel qui décident de s'unir pour lutter contre les méchants et sauver le monde.
Vous pensez à qui, là?
Mais rassurez-vous, c'est la voix du Stephen King, le maître de l'horreur, ça fait beaucoup moins peur que la vie politique française. Je m'apprêtais donc à vous parler de ce livre quand j'ai appris l'apparition de ce petit roman épistolaire de l'anglaise Jane Austen. Alors c'est drôle parce qu'il paraît conjointement, simultanément chez deux éditeurs. Ça s'appelle Amour et Amitié et c'est aussi consacré, et oui, au mariage entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo, Amour et Amitié. Parce que oui, bien sûr, bon, pour des raisons évidentes de protection de son indépendance politique, Jane Austen ne donne pas leur nom. On lira donc ce petit chef-d'œuvre comme un roman à clé. Mais ce roman à lettres parodie les romans sentimentaux en vogue à l'époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Il y a une héroïne, Laura, qui, comme François Bayrou, est d'ascendance irlandaise. Elle raconte à la jeune Marianne ses aventures de jeunesse. Il y est question d'amour et d'amitié, d'alliance, de rapprochement, mais aussi de calcul, de coups de foudre et de séparation. C'est très très intelligent, c'est désopilant, rocambolesque et débordant de causticité. On va le comprendre très vite. Jane Austen, elle trace une satire des romans dégoulinants de son époque, donc la fin du XVIIIe, où on trouvait toujours les mêmes clichés, des familles matérialistes à l'excès, des jeunes filles idéalistes et des mariages arrangés. Un genre qu'elle va, comme on le sait, bientôt révolutionner avec, par exemple, Raison et Sentiment. Dans ce roman, donc dans ce petit roman, Amour et Amitié, pour le coup, les sentiments ne sont pas du tout tempérés par la raison, ou alors éventuellement par une raison froide et calculatrice. Jane Austen, elle y fait une analyse très très fine des comportements. Elle dénonce les excès de sensibilité qui sont mis en scène par le roman de l'époque. Elle raille par exemple notamment beaucoup la tendance à l'évanouissement. C'est très très drôle, tout le monde s'y évanouit, tout le monde à la moindre annonce, au moindre sentiment énoncé défaille, se pâme, on défaille dans tous les sens. On défaille tant que l'amie de Laura, Sophia, finit elle par en mourir vraiment, non sans avoir avant prononcé à l'attention de Laura un long discours tout à fait invraisemblable sur les dangers des excès de la pâmoison. Voilà donc un petit roman aussi amusant que réjouissant et impressionnant aussi, parce qu'il faut noter que Jane Austen avait moins de 15 ans lorsqu'elle l'écrivit en 1790. Voilà, on a... c'est vrai que c'est, elle est aussi, enfin, elle est drôle et impressionnante d'intelligence, d'acuité, de vue sur ses contemporains. Et ça vaut aussi pour notre époque. Donc, je pense qu'on n'a plus le temps de, je voulais vous donner pas mal de détails pratiques. On pourrait les retrouver.
Non, mais peut-être nous redonner déjà le titre de ce roman.
Le titre Amour et Amitié, donc chez deux traducteurs, en deux traductions et deux éditeurs, Folio et Rivage. On pourra trouver ça sur le site de France Culture. Et je voulais juste rappeler que Stephen King, dont je parlais tout à l'heure, faut lire son roman Dr. Sleep chez Albin Michel. Petit événement parce qu'il sera à Paris pour la première fois pour rencontrer ses lecteurs français au Grand Rex samedi 16 novembre dans une rencontre animée par notre ami et confrère Augustin. C'est un trapenard, on peut trouver tous les détails sur le site de France Culture.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
Vous écoutez France Culture.
Bonjour à vous, Sabine Aurory de la Croix. Pour votre coup de cœur littéraire cette semaine, c'est Jane Austen, avec un inédit.
Non, pas un inédit, inédit, mais un inconnu, disons, qui reparaît. En fait, au départ, je m'apprêtais à vous parler du nouveau roman de Stephen King qui s'appelle Dr. Sleep, qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. Un roman tout à fait génial qui est en fait la suite du célèbre Shining, un roman qui devrait plaire à Jean-Christophe Lagarde, puisque c'est l'histoire de deux personnes au pouvoir surnaturel qui décident de s'unir pour lutter contre les méchants et sauver le monde.
Vous pensez à qui, là?
Mais rassurez-vous, c'est la voix du Stephen King, le maître de l'horreur, ça fait beaucoup moins peur que la vie politique française. Je m'apprêtais donc à vous parler de ce livre quand j'ai appris l'apparition de ce petit roman épistolaire de l'anglaise Jane Austen. Alors c'est drôle parce qu'il paraît conjointement, simultanément chez deux éditeurs. Ça s'appelle Amour et Amitié et c'est aussi consacré, et oui, au mariage entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo, Amour et Amitié. Parce que oui, bien sûr, bon, pour des raisons évidentes de protection de son indépendance politique, Jane Austen ne donne pas leur nom. On lira donc comme ce petit chef-d'œuvre comme un roman à clé. Mais ce roman à lettres parodie les romans sentimentaux en vogue à l'époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Il y a une héroïne, Laura, qui, comme François Bayrou, est d'ascendance irlandaise. Elle raconte à la jeune Marianne ses aventures de jeunesse. Il y est question d'amour et d'amitié, d'alliance, de rapprochement, mais aussi de calcul, de coups de foudre et de séparation. C'est très très intelligent, c'est désopilant, rocambolesque et débordant de causticité. On va le comprendre très vite. Jane Austen, elle trace une satire des romans dégoulinants de son époque, donc la fin du XVIIIe, où on trouvait toujours les mêmes clichés, des familles matérialistes à l'excès, des jeunes filles idéalistes et des mariages arrangés. Un genre qu'elle va, comme on le sait, bientôt révolutionner avec, par exemple, Raison et Sentiment. Dans ce roman, donc dans ce petit roman, Amour et Amitié, pour le coup, les sentiments ne sont pas du tout tempérés par la raison, ou alors éventuellement par une raison froide et calculatrice. Jane Austen, elle y fait une analyse très très fine des comportements. Elle dénonce les excès de sensibilité qui sont mis en scène par le roman de l'époque. Elle raille par exemple notamment beaucoup la tendance à l'évanouissement. C'est très très drôle, tout le monde s'y évanouit, tout le monde à la moindre annonce, au moindre sentiment énoncé défaille, se pâme, on défaille dans tous les sens. On défaille tant que l'amie de Laura, Sophia, finit elle par en mourir vraiment, non sans avoir avant prononcé à l'attention de Laura un long discours tout à fait invraisemblable sur les dangers des excès de la pâmoison. Voilà donc un petit roman aussi amusant que réjouissant et impressionnant aussi, parce qu'il faut noter que Jane Austen avait moins de 15 ans lorsqu'elle l'écrivit en 1790. Voilà, on a... c'est vrai que c'est... elle est aussi... enfin, elle est drôle et impressionnante d'intelligence, d'acuité, de vue sur ses contemporains. Et ça vaut aussi pour notre époque. Donc je pense qu'on n'a plus le temps de, je voulais vous donner pas mal de détails pratiques, on pourra les retrouver sur le site.
Non mais peut-être nous redonner déjà le titre de ce roman.
Le titre Amour et Amitié, donc chez deux traducteurs, en deux traductions et deux éditeurs Folio et Rivage, on pourra trouver ça sur le site de France Culture. Et je voulais juste rappeler que Stephen King, dont je parlais tout à l'heure, faut lire son roman Dr Sleep chez Albin Michel. Petit événement parce qu'il sera à Paris pour la première fois pour rencontrer ses lecteurs français au Grand Rex samedi 16 novembre dans une rencontre animée par notre ami et confrère Augustin. C'est un trapenard, on peut trouver tous les détails sur le site de France Culture.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
Vous écoutez France Culture.
Bonjour à vous, Sabine Aurory de la Croix. Pour votre coup de cœur littéraire cette semaine, c'est Jane Austen, avec un inédit.
Non, pas un presque inédit, mais un inconnu, disons, qui reparaît. En fait, au départ, je m'apprêtais à vous parler du nouveau roman de Stephen King qui s'appelle Dr Sleep, qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. Un roman tout à fait génial qui est en fait la suite du célèbre Shining, un roman qui devrait plaire à Jean-Christophe Lagarde puisque c'est l'histoire de deux personnes au pouvoir surnaturel qui décident de s'unir pour lutter contre les méchants et sauver le monde.
Vous pensez à qui là?
Mais rassurez-vous, c'est la voix du Stephen King, le maître de l'horreur, ça fait beaucoup moins peur que la vie politique française. Je m'apprêtais donc à vous parler de ce livre quand j'ai appris l'apparition de ce petit roman épistolaire de l'anglaise Jane Austen. Alors c'est drôle parce qu'il paraît conjointement, simultanément chez deux éditeurs. Ça s'appelle Amour et Amitié et c'est aussi consacré, et oui, au mariage entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo, Amour et Amitié. Parce que oui, bien sûr, bon, pour des raisons évidentes de protection de son indépendance politique, Jane Austen ne donne pas leur nom. On lira donc comme ce petit chef-d'œuvre comme un roman à clé. Mais ce roman à lettres parodie les romans sentimentaux en vogue à l'époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Il y a une héroïne, Laura, qui, comme François Bayrou, est d'ascendance irlandaise. Elle raconte à la jeune Marianne ses aventures de jeunesse. Il y est question d'amour et d'amitié, d'alliance, de rapprochement, mais aussi de calcul, de coups de foudre et de séparation. C'est très très intelligent, c'est désopilant, rocambolesque et débordant de causticité. On va le comprendre très vite. Jane Austen trace une satire des romans dégoulinants de son époque, donc la fin du XVIIIe, où on trouvait toujours les mêmes clichés, des familles matérialistes à l'excès, des jeunes filles idéalistes et des mariages arrangés. Un genre qu'elle va, comme on le sait, bientôt révolutionner avec, par exemple, Raison et Sentiment. Dans ce roman, donc dans ce petit roman, Amour et Amitié, pour le coup, les sentiments ne sont pas du tout tempérés par la raison, ou alors éventuellement par une raison froide et calculatrice. Jane Austen, elle y fait une analyse très très fine des comportements. Elle dénonce les excès de sensibilité qui sont mis en scène par le roman de l'époque. Elle raille par exemple notamment beaucoup la tendance à l'évanouissement. C'est très très drôle, tout le monde s'y évanouit, tout le monde à la moindre annonce, au moindre sentiment énoncé, défaille, se pâme, on défaille dans tous les sens. On défaille tant que l'amie de Laura, Sophia, finit elle par en mourir vraiment, non sans avoir avant prononcé à l'attention de Laura un long discours tout à fait invraisemblable sur les dangers des excès de la pâmoison. Voilà donc un petit roman aussi amusant que réjouissant et impressionnant aussi parce qu'il faut noter que Jane Austen avait moins de 15 ans lorsqu'elle l'écrivit en 1790. Voilà, on a c'est vrai que c'est elle est aussi enfin elle est drôle et impressionnante d'intelligence d'acuité de vue sur ses contemporains. Et ça vaut aussi pour notre époque. Donc je pense qu'on n'a plus le temps de, je voulais vous donner pas mal de détails pratiques, on pourra les retrouver sur le site.
Non mais peut-être nous redonner déjà le titre de ce roman.
Le titre Amour et Amitié, donc chez deux traducteurs, en deux traductions et deux éditeurs Folio et Rivage, on pourra trouver ça sur le site de France Culture. Et je voulais juste rappeler que Stephen King, dont je parlais tout à l'heure, faut lire son roman Dr Sleep chez Albin Michel. Petit événement parce qu'il sera à Paris pour la première fois pour rencontrer ses lecteurs français au Grand Rex samedi 16 novembre dans une rencontre animée par notre ami et confrère Augustin Trapenard. art. On peut trouver tous les détails sur le site de France Culture.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Este es el final de la tarea 1. Tarea 2. Escuche la grabación. Marque las 10 respuestas correctas. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas.
Mon époque, ma radio.
Avec Sonia Esgulian, chef inventive et audacieuse, on met le doigt là où ça fait mal dans la cuisine, la poubelle. Pleine des aliments qu'on jette parfois même pas déballés, elle nous coûte finalement très cher. Et si on achetait moins, de manière moins impulsive, si on stockait mieux et qu'on accommodait nos restes, chaque foyer français pourrait économiser, selon le ministère de l'Agriculture, entre 500 et 600 euros. Alors commençons les économies dès maintenant avec les recettes de pain rassis de Sonia Esgulian.
En fait, on peut faire tout simplement un pain perdu. Salé, j'entends, parce qu'on peut, par exemple, avec un vide-pomme, creuser quelques petits trous dans une tranche de pain, y glisser soit un petit morceau de lard, soit des olives ou un autre aliment que l'on veut, et ensuite simplement le faire griller à la poêle. C'est très très bon. On peut casser un œuf par-dessus ou déposer un œuf au plat ou des œufs brouillés. Ça, c'est une autre version du pain perdu, et je trouve que ça apporte justement une originalité pour le pain. On garde le croustillant et c'est très sympa.
Non seulement c'est très sympa, mais en plus, c'est très économe pour la planète, car on jetterait une baignoire d'eau virtuelle pour chaque baguette rassise mise à la poubelle. Malheureusement, ce n'est pas tout. Le pain, comme tout aliment, nécessite l'usage de ressources fossiles pour la production des céréales qu'il compose. Il est source d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il est transformé, transporté. Il nécessitera encore de l'énergie lorsqu'il faudra s'en débarrasser après son passage en poubelle. Et il sera peut-être alors source de pollution s'il est incinéré. En plus, vous aurez toujours faim après l'avoir jeté. Alors revenons sagement aux recettes amusantes et délicieuses de Sonia Esgulian qui nous propose de réaliser des quenelles de pain rassis.
Il suffit de prendre du pain, de le mixer pour obtenir une chapelure assez grossière. Et ensuite, on va faire une préparation. Dans un saladier, on va ajouter un œuf, on va ajouter un petit peu de crème. On va mélanger le tout. Alors après, on peut mettre les épices qu'on a envie. On peut même ajouter quelques herbes aromatiques. On va malaxer cette préparation et on va fabriquer donc avec deux cuillères. On va former en fait des petites quenelles. On va les pocher pendant une minute dans de l'eau bouillante. Puis, on va les faire dorer à la poêle. C'est spectaculaire. C'est-à-dire que comme ça, on peut se dire que ça peut être un petit peu lourd. Pas du tout. C'est vraiment très bluffant, d'autant qu'elle n'a pas le même goût si vous achetez du pain blanc, du pain de seigle, du pain aux céréales, etc.
Pour Sonia, le pain est par excellence l'aliment qu'on ne doit jamais jeter, tant les utilisations qu'on peut en faire sont multiples. Pour cette raison très gourmande, pour l'économie qui en découle, ou par respect de l'environnement, et surtout de ceux qui manquent de pain, on peut aussi tenter de changer nos comportements pour moins jeter.
Ahora dispone usted de un minuto. Para comprobar sus respuestas.
Mon époque, ma radio.
Avec Sonia Esgulian, chef inventive et audacieuse, on met le doigt là où ça fait mal dans la cuisine, la poubelle. Pleine des aliments qu'on jette parfois même pas déballés, elle nous coûte finalement très cher. Et si on achetait moins, de manière moins impulsive, si on stockait mieux et qu'on accommodait nos restes, chaque foyer français pourrait économiser, selon le ministère de l'Agriculture, entre 500 et 600 euros. Alors commençons les économies dès maintenant avec les recettes de pain rassis de Sonia Esgulian.
En fait, on peut faire tout simplement un pain perdu. Salé, j'entends, parce qu'on peut, par exemple, avec un vide-pomme, creuser quelques petits trous dans une tranche de pain, y glisser soit un petit morceau de lard, soit des olives ou un autre aliment que l'on veut, et ensuite simplement le faire griller à la poêle. C'est très très bon. On peut casser un œuf par-dessus ou déposer un œuf au plat ou des œufs brouillés. Ça, c'est une autre version du pain perdu, et je trouve que ça apporte justement une originalité pour le pain. On garde le croustillant et c'est très sympa.
Non seulement c'est très sympa, mais en plus c'est très économe pour la planète, car on jetterait une baignoire d'eau virtuelle pour chaque baguette rassise mise à la poubelle. Malheureusement, ce n'est pas tout. Le pain, comme tout aliment, nécessite l'usage de ressources fossiles pour la production des céréales qu'il compose. Il est source d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il est transformé, transporté. Il nécessitera encore de l'énergie lorsqu'il faudra s'en débarrasser après son passage en poubelle, et il sera peut-être alors source de pollution s'il est incinéré. En plus, vous aurez toujours faim après l'avoir jeté. Alors revenons sagement aux recettes amusantes et délicieuses de Sonia Esgulian qui nous propose de réaliser des quenelles de pain rassis.
Il suffit de prendre du pain, de le mixer pour obtenir une chapelure assez grossière. Et ensuite, on va faire une préparation. Dans un saladier, on va ajouter un œuf. On va ajouter un petit peu de crème. On va mélanger le tout. Alors après, on peut mettre les épices qu'on a envie. On peut même ajouter quelques herbes aromatiques. On va malaxer cette préparation. Et on va fabriquer donc avec deux cuillères. On va former en fait des petites quenelles. On va les pocher pendant une minute dans de l'eau bouillante. Puis, on va les faire dorer à la poêle. C'est spectaculaire. C'est-à-dire que comme ça, on peut se dire que ça peut être un petit peu lourd. Pas du tout. C'est vraiment très bluffant, d'autant qu'elle n'a pas le même goût si vous achetez du pain blanc, du pain de seigle, du pain aux céréales, etc.
Pour Sonia, le pain est par excellence l'aliment qu'on ne doit jamais jeter, tant les utilisations qu'on peut en faire sont multiples. Pour cette raison très gourmande, pour l'économie qui en découle, ou par respect de l'environnement, et surtout de ceux qui manquent de pain, on peut aussi tenter de changer nos comportements pour moins jeter.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
Mon époque, ma radio.
Avec Sonia Esgulian, chef inventive et audacieuse, on met le doigt là où ça fait mal dans la cuisine, la poubelle. Pleine des aliments qu'on jette parfois même pas déballés, elle nous coûte finalement très cher. Et si on achetait moins, de manière moins impulsive, si on stockait mieux et qu'on accommodait nos restes, chaque foyer français pourrait économiser, selon le ministère de l'Agriculture, entre 500 et 600 euros. Alors commençons les économies dès maintenant avec les recettes de pain rassis de Sonia Esgulian.
En fait, on peut faire tout simplement un pain perdu. Salé, j'entends, parce qu'on peut, par exemple, avec un vide-pomme, creuser quelques petits trous dans une tranche de pain, y glisser soit un petit morceau de lard, soit des olives ou un autre aliment que l'on veut, et ensuite simplement le faire griller à la poêle. C'est très très bon. On peut casser un œuf par-dessus, ou déposer un œuf au plat, ou des œufs brouillés. Ça, c'est une autre version du pain perdu, et je trouve que ça apporte justement une originalité pour le pain. On garde le croustillant, et c'est très sympa.
Non seulement c'est très sympa, mais en plus c'est très économe pour la planète, car on jetterait une baignoire d'eau virtuelle pour chaque baguette rassise mise à la poubelle. Malheureusement, ce n'est pas tout. Le pain, comme tout aliment, nécessite l'usage de ressources fossiles pour la production des céréales qu'il compose. Il est source d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il est transformé, transporté. Il nécessitera encore de l'énergie lorsqu'il faudra s'en débarrasser après son passage en poubelle, et il sera peut-être alors source de pollution s'il est incinéré. En plus, vous aurez toujours faim après l'avoir jeté. Alors revenons sagement aux recettes amusantes et délicieuses de Sonia Esgulian, qui nous propose de réaliser des quenelles de pain rassis.
Il suffit de prendre du pain, de le mixer pour obtenir une chapelure assez grossière. Et ensuite, on va faire une préparation. Dans un saladier, on va ajouter un œuf, on va ajouter un petit peu de crème. On va mélanger le tout. Alors après, on peut mettre les épices qu'on a envie. On peut même ajouter quelques herbes aromatiques. On va malaxer cette préparation. Et on va fabriquer, donc avec deux cuillères, on va former en fait des petites quenelles. On va les pocher pendant une minute dans de l'eau bouillante, puis on va les faire dorer à la poêle. C'est spectaculaire. C'est-à-dire que comme ça, on peut se dire que ça peut être un petit peu lourd. Pas du tout. C'est vraiment très bluffant, d'autant qu'elle n'a pas le même goût si vous achetez du pain blanc, du pain de seigle, du pain aux céréales, etc.
Pour Sonia, le pain est par excellence l'aliment qu'on ne doit jamais jeter, tant les utilisations qu'on peut en faire sont multiples. Pour cette raison très gourmande, pour l'économie qui en découle, ou par respect de l'environnement, et surtout de ceux qui manquent de pain, on peut aussi tenter de changer nos comportements pour moins jeter.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Este es el final de la tarea 2.